Alors, le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, c'est un livre vraiment intéressant. Si vous ne l'avez jamais lu, eh bien, il faut le lire. Hein. C'est vraiment précieux, ce livre. Un livre prophétique, donc, de l'Ancien Testament, mais qui est riche d'enseignements sur la personne de Jésus-Christ. On y voit vraiment Jésus-Christ, pourtant écrit 6 siècles avant Jésus-Christ. On voit sa première venue qui est prophétisée, on voit sa seconde venue aussi, son retour en gloire. Hein. Puis Zacharie aborde d'autres thèmes, les nations aussi, et puis aussi Israël, le rétablissement d'Israël et le retour d'Israël, la repentance d'Israël. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et ce prophète a eu un ministère juste au retour de l'exil, c'est-à-dire après la déportation. Ils ont été déportés à Babylone pendant 70 ans. Et au retour, eh bien, Zacharie là, est entré dans son ministère. Donc, c'était juste avant la reconstruction du temple. Et j'aimerais qu'on lise juste pour commencer les premiers versets de Zacharie. Zacharie 1, 1 à 6, juste pour introduction, pour voir ce que Dieu va dire quand ils vont rentrer. Donc de Babylone. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés. Et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Voilà le constat juste après eh bien, ce retour. Et Dieu les prévient. Il leur dit, mais souvenez-vous ce que vos pères ont subi. Eh bien, vous ne recommencez pas. Écoutez mes paroles. Et c'est une mise en garde. Mais Dieu savait néanmoins qu'après 70 ans d'exil, le peuple était brisé. Ils étaient brisés complètement dans leur force. Alors, eh bien, après cela, Dieu va accorder des visions à Zacharie, plusieurs visions, qui étaient destinées à consoler le peuple, à le rassurer, à l'encourager, à l'aider à repartir. Et c'est l'une de ces visions que j'aimerais que l'on voit ce matin. Ça se trouve au chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 5. Zacharie 3, versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban sur sa tête, pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alors, Zacharie a donc cette vision du souverain sacrificateur Josué. C'est pas le Josué donc de la conquête de Canaan, donc c'est un autre Josué qui, lui, est souverain sacrificateur. Et ce Josué représente en quelque sorte la nation d'Israël. Et c'était une nation qui était corrompue, qui avait été corrompue, une nation qui était tombée dans la désobéissance. Tout le monde était corrompu, du plus grand au plus petit. Et même les sacrificateurs qui étaient censés offrir des sacrifices et donc s'approcher de Dieu et le faire avec des bêtes selon la loi, comme ça avait été stipulé, des bêtes qui étaient pures, qui étaient sans défaut, etc. Même les sacrificateurs, ils prenaient les bêtes chétives, les bêtes malades, celles qu'ils n'auraient pas voulu pour eux-mêmes. Et puis, ils les offraient à Dieu. Et donc, le péché était vraiment... partout, dans toutes les couches de cette société d'Israël, Alors, eh bien, Dieu les a frappés et les a envoyés à Babylone. Il les a prévenus encore. Hein. C'est intéressant, ils disent, au premier chapitre, on a lu, hein, est-ce que les prophètes devaient vivre éternellement ? Non, il les a prévenus, mais ils n'ont pas voulu écouter. Alors, est arrivée cette déportation. Et le nom de Zacharie signifie « l'Éternel se souvient ». L'Éternel se souvient, il se souvient d'Israël, il se souvient de son peuple. Et ce troisième chapitre de Zacharie expose la restauration de cet Israël au cœur brisé. L'Éternel se souvient d'eux, il ne les abandonne pas. On va relire le verset 1, Zacharie 3, 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué est debout, il se tient devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Christ ne s'était pas incarné, il n'avait pas pris une chair comme la nôtre, il n'était pas encore devenu homme, mais néanmoins, on le voit partout, sous ce nom, cette appellation, l'ange de l'Éternel. Un ange, c'est un envoyé, littéralement c'est un envoyé, et c'est l'envoyé de l'Éternel. Josué est donc devant Jésus-Christ. Il est face à Jésus-Christ, mais à sa droite se tient Satan, qui est en train d'accuser Josué. Satan est appelé dans la Bible l'accusateur des frères, et littéralement ici, c'est l'accusateur. Il a accusé Job, vous vous souvenez, dans le livre de Job, il a chargé Job pour essayer d'enfoncer Job en disant « Mais en fait, il est hypocrite, il ne t'aime pas comme il devrait t'aimer, c'est un amour finalement par profit ». Parce que tu lui donnes, mais retire et tu vas voir s'il t'aime encore. Et là, maintenant, il est devant Josué, devant ce souverain sacrificateur, et il l'accuse, il l'accable, il expose ses péchés devant Dieu, il prend plaisir à développer en détail ses fautes. En France, quand on passe devant un tribunal, il y a un magistrat du ministère public qui est appelé l'avocat général. Et l'avocat général, il plaide en faveur de la culpabilité de l'accusé. Il plaide pour que l'accusé soit enfoncé le plus bas possible. En fait, ça se passe comme ça. Il y a d'abord le président qui commence à citer les faits, tout simplement. Il va dire par exemple, « Monsieur un tel, vous avez été surpris à telle heure, tel jour, tel endroit, vous commettiez tel délit et la police vous a surpris. » Donc, il fait un exposé des faits. Ensuite, l'avocat de la partie civile va exposer le préjudice que monsieur un tel a fait subir à son client ou ses clients. Donc cet avocat de la partie civile va réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la victime. Par la victime. Et ensuite, la parole est donnée à l'avocat général. Et lui, l'avocat général, comme je vous disais, c'est lui qui va charger en fait, la personne, lui, il a pour charge de défendre la loi. Et donc, il va prendre la loi, il va souligner en rouge la culpabilité de l'accusé. Il va, par exemple, dire que cette personne, elle est dangereuse pour la société, qu'elle est capable du fait, c'est-à-dire qu'elle est capable de récidiver, de recommencer. Et il va essayer de trouver tout ce qu'il peut trouver pour le charger. Et puis, l'avocat général va réclamer une peine. 1 an, 5 ans, 10 ans, perpétuité. Et on peut dire que le diable, il est un peu comme cet avocat général dans le tribunal français. Le diable vient accuser et vient enfoncer le pécheur aussi loin qu'il le peut. Il va citer tout le mal qu'il fait, ses péchés, ses méfaits. Si besoin, il ne va pas se gêner pour rappeler la loi de Dieu. Il fait ça et t'as vu ce que tu dis toi ? La loi de Dieu dit ça ? Donc, voilà, il cite la loi parce que le diable veut la perte du pécheur. Et s'il y a une différence entre le diable et l'avocat général, c'est que l'avocat général, c'est un ministre d'État et simplement, lui, il veut faire appliquer la loi. Il y a une loi, alors, il va citer la loi et il va essayer de protéger la société, en quelque sorte, contre des personnes qui sont dangereuses. Donc, il veut vraiment les protéger. Tandis que le diable, lui, il déteste les pécheurs. Il les déteste. Et il veut les enfoncer le plus bas possible. Il veut les accuser gratuitement. Il veut la perte du pécheur. Il veut que Dieu les frappe, les juge et qu'il les envoie loin, loin de lui. Et si le diable est comme cela devant le juge, devant Dieu, et il était en train d'accuser donc ce souverain sacrificateur Josué, il exposait ses mauvaises habitudes, il exposait tout ce qu'il était dans sa nature, ses pensées mauvaises, il mettait en lumière son égoïsme, sa cupidité, son orgueil, sa lâcheté, et il va déballer ses péchés pour qu'il soit reconnu coupable devant Dieu. Et on peut dire, c'est ce que le diable fait aussi avec nous. Peut-être on n'en a pas vraiment conscience, mais il relève nos fautes devant Dieu pour qu'on soit accusé. Par exemple, il peut dire, « Tu vois celui-là que tu appelles ton enfant, regarde, il est indigne de toi. Regarde ce qu'il fait. Il croit que personne ne le voit. Il dit qu'il est un chrétien, mais regarde son péché. Il fait semblant d'être un bon chrétien, il dit qu'il t'aime, et par derrière, il est infidèle. Il mérite que tu le rejettes. Tu es un Dieu saint. » Ou bien encore, « Regarde celui-là. Regarde comme il est fier et orgueilleux. Son attitude témoigne de ce qu'il est en réalité. » Ou bien encore, « Regarde celle-là, elle a toujours joué la carte de la piété. Mais regarde-là, on voit son cœur qui se manifeste là. Elle est méchante en fait. Elle est méchante comme toutes les autres. Elle rend coup pour coup. » Ou bien encore, « Regarde celui-là, regarde comme il dort bien. Il ne se soucie pas une seconde de passer du temps avec toi. Est-ce que vraiment c'est ton enfant ? Et regarde Josué, regarde le souverain sacrificateur. Quel nom pompeux pour un homme qui ne pense qu'à lui. Bien manger, bien boire, profiter, mentir. Voilà le représentant de Dieu. Un indigne lui aussi. Il transgresse ta loi. Tu dois le rejeter. » Et c'est ainsi que le diable a accusé Josué. Et c'est ainsi que le diable aussi nous accuse, jour après jour. Il accuse, il relève nos péchés, nos manquements. Et il peut le faire d'une manière libre et avec allégresse vis-à-vis de tous les pécheurs qu'il y a sur cette terre. Parce que là, ils ont vraiment un gros lot de choses à se reprocher. Alors, eh bien, c'est facile de les plomber, de les accuser. Il est comme un avocat général. Et puis, il demande la peine maximale. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qu'il mérite. Il mérite que tu les rejettes. Mais quoique l'avocat général peut invoquer les textes de loi, quoi qu'il puisse demander la peine maximale, le juge qui est dans les cieux, Dieu, lui, ne le voit pas du même œil. Regardez Zacharie 3, versets 2 à 3. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales. » Il se tenait debout devant l'ange. Et c'est très touchant ici de voir que l'Éternel va prendre la défense de Josué dans un tribunal. Après que l'avocat général se soit exprimé, alors eh bien, on entend l'avocat de la défense. L'avocat de la défense eh bien, va défendre le coupable. Et le pécheur qui le souhaite, il peut avoir un avocat de la défense ici, comme on le voit. Devant le grand juge, l'avocat de la défense, c'est Jésus-Christ qui va défendre. Il y a ce passage dans Jean, je vous le lis simplement dans l'épître de Jean. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Et Jésus-Christ, eh bien, c'est l'avocat de la défense. Il est là pour venir défendre, protéger, eh bien, la personne qui est accusée. Et c'est quelque chose de précieux quand on a un bon avocat de la défense. Il peut même réussir à faire sauter une peine, voilà, qu'on soit finalement innocenté. Ici, dans notre passage, Jésus-Christ prend la défense de Josué. Il dit « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Et il faut souligner ici ce que dit la parole de Dieu. Verset 2, il dit « L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. » C'est touchant. L'Éternel qui parle de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, on voit que eh bien, Dieu le Fils, et Dieu le Père, ils ont tous les deux le même nom, l'Éternel. Même, ou bien l'Éternel des armées. L'Éternel des armées pour l'un, l'Éternel des armées pour l'autre. Regardez, on va regarder juste, faire une parenthèse, chapitre 2, versets 8 et 9, juste avant. Prêtez bien attention au verset. Il est dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées ». Donc c'est l'Éternel des armées qui parle. « Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. » L'Éternel des armées parle. Et il dit, l'Éternel des armées m'a envoyé. Et on voit ici, eh bien, en fait, Dieu le Père, hein, Dieu le Fils. Pourquoi ? Parce qu'ils sont, ils sont un, tous les deux. Alors, eh bien, voilà, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Jésus a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si on voit l'un, on voit automatiquement l'autre. Les deux sont liés, sont unis ensemble. Alors, eh bien, on peut employer un nom pour l'autre. Ainsi, on peut traduire, Jésus-Christ dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. C'est l'avocat de Josué qui prend sa défense. Josué, on l'a dit, il représente en quelque sorte Israël. Et l'avocat rappelle ce que Dieu, son Père, a dit. Il a choisi Israël. Il a choisi Jérusalem. Son amour s'est porté sur Jérusalem. Il lui dit, et l'Éternel a dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà, je t'aime Israël d'un amour éternel. Et donc, Satan, eh bien, tu peux te taire. Ce n'est pas la peine de l'accuser. Oui, mais verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Couvert de vêtements sales. Imaginez dans quel état était Josué, debout, devant l'ange de l'Éternel. Il devait être sale, dégoûtant, hideux, souillé de la tête aux pieds. Il est devant Jésus-Christ et son regard le perce, le transperce. Il devait se sentir honteux, confus, courbé. Il faut se souvenir qu'il est souverain sacrificateur. Donc, on lui a confié le sacerdoce. Il doit servir l'Éternel. Mais là, il est comme complètement indigne du rang auquel Dieu l'a appelé, de l'appel qu'il a reçu. Il est sale extérieurement, il est sale intérieurement, dans son âme. Et peut-être que c'est comme ça que vous vous sentez aujourd'hui, ce matin, en vous disant, mais je suis sale, moi aussi, indigne peut-être d'être appelé son enfant, indigne de ce qu'il m'a confié. On peut vivre parfois comme cela. Mais on est tous, si on est enfant de Dieu, tous appelés de l'Éternel, quoique imparfaits. Mais l'avocat de la défense se met à plaider pour Josué. Il dit, l'Éternel a choisi Jérusalem. Puis il dit, n'est-ce pas là un tison arraché au feu ? Un tison, c'est comme un morceau de bois qui a commencé à se consumer, mais qui n'est pas complètement consumé. Et donc, qui peut-être fume déjà. Et il dit, mais Israël est comme un tison arraché au feu. Donc voilà, sorti du feu qui était prêt à être complètement consumé. Et c'est ainsi que Dieu a sauvé Israël, qui était déjà jugé à Babylone. Il est venu le chercher au cœur du jugement, il a eu pitié de lui. Condamné dans une terre étrangère, prêt à périr, mais un tison arraché au feu. Et on peut dire que très souvent, Israël a été un tison arraché au feu. En fait, c'est son histoire. Ils pêchent, Dieu les châtie, et puis ils pleurent, et Dieu les sort à chaque fois du feu. C'est quelque chose qui est venu, qui est revenu, et malheureusement qui va encore se reproduire. Mais le tison arraché au feu, ce n'est pas qu'Israël. Le tison arraché au feu, c'est aussi chaque pécheur qui le désire. Parce qu'il y a une menace, il y a une condamnation qui repose sur la tête de chaque homme, chaque pécheur. Et le diable, il ne fait pas d'exception. Il a accusé Israël, il a accusé ce souverain sacrificateur Josué, et puis il nous accuse. Il accuse tous les hommes. et il essaye encore de nous plomber, de nous enfoncer, de relever tous nos péchés et tous nos manquements. Et le juge est prêt à faire tomber la sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle de Dieu pour toujours. Si le fil se casse, si le fil se brise, si la vie s'arrête, ça y est, on est jugé immédiatement. Et là, l'avocat général va déverser tout son venin, tout ce qu'il sait sur nous, et le jugement va tomber. À moins qu'il y ait un avocat de la défense qui se lève pour lui, pour le défendre. Comme pour Israël, s'il y a un bon avocat de la défense, alors il peut le sortir du jugement. Israël a été un tison arraché au feu grâce à cet avocat, Jésus-Christ. Et ça peut être notre cas si nous aussi, on prend cet avocat pour nous. Mais il y a une démarche qui est consciente, une démarche qui est volontaire. Oui, je veux, j'ai besoin de cet avocat. Sinon, c'est peine perdue. C'est comme Slobodan Milosevic. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça il y a quelques années. Il a été arrêté. Donc, l'ancien président yougoslave, il était, mais alors noir, de chez noir, inculpé, 61 chefs d'inculpation. Et il n'a pas voulu d'avocat de la défense. C'était une folie. Vu comment, tout ce qu'il avait, le sang qu'il avait à se reprocher, mais il ne voulait pas d'avocat de la défense. Et tous les hommes sont libres de passer un jour devant le grand juge et de faire comme Slobodan, de dire, mais pas besoin d'avocat. Combien il y a de personnes qui disent, moi, quand je serai devant Dieu, je veux lui dire deux mots. Attends. En fait, ils veulent prendre leur défense tout seuls. Mais c'est peine perdue. C'est fichu. Ou bien, ils ne se soucient pas d'avoir un avocat en se disant, mais moi, ça va, quoi. Hein, je suis propre à mes propres yeux, bien sûr. Alors qu'ils sont noirs, comme tous les hommes. On est tous noirs, hein, noirs de nos péchés. C'est une folie de ne pas prendre d'avocat de la défense. La Bible dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit qu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, pas même un seul, il n'y en a pas un. Elle dit encore, devant lui, toute bouche sera fermée. Quand les hommes vont passer en jugement devant Dieu, il n'y a pas un son qui va sortir de leur bouche. Pas de défense possible. Si on pense qu'on va pouvoir plaider sa propre cause, on est d'ores et déjà condamné. Perdu d'avance, à moins qu'on ait un avocat de la défense. Est-ce que chacun ici a un avocat de la défense? Chacun est protégé. Ça, c'est le seul moyen d'être un tison qui est arraché au feu. Il faut savoir que les tribunaux humains sont beaucoup plus cléments que le tribunal de Dieu. Je m'entends quand on n'a pas un bon avocat de la défense. Pourquoi? Parce que les tribunaux humains ne jugent que les actions qui ont été vues. Il y a eu un témoin, il y a eu un fait, on l'a surpris, on a des preuves, il a fait une mauvaise action. Dieu juge les pensées. Dieu juge tout ce qui est caché, que personne ne voit. Lui, il sait tout. Il a notre vie comme un livre ouvert. Il sait quand on est tout seul devant notre ordinateur. Il voit tout, à chaque instant. Il connaît tous nos péchés. Mais on peut être un tison arraché du feu si on a cet avocat qui va prendre notre défense. Et c'est ce que Josué a fait d'une certaine manière. L'avocat a pris sa défense. Il est resté là devant l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel était là. Il était là pour lui. Et c'est ça qui est important. C'est d'avoir l'ange de l'Éternel qui est là à côté de nous. Regardez Zacharie 3, 4 à 5. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Christ dit au souverain sacrificateur, « Josué, voici, je t'enlève ton iniquité. Quelle grâce! Je te revais d'habits de fête, un vêtement pur, mon vêtement que j'ai acquis à mon propre sang. » Josué était sale. Pour lui, c'était le vêtement que Jésus-Christ allait lui donner plus tard, hein, puisque Jésus-Christ est mort pour ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament et qui n'avaient pas encore obtenu le pardon. mais qui avait cru. Et puis il est mort, et bien après, pour tous ceux qui allaient venir après, c'est-à-dire nous, plus tard. Mais Josué était sale, il était souillé, il était corrompu devant Dieu. Et l'ange de l'Éternel ôte, voilà, fait ôter ses vêtements et le fait revêtir d'une tunique de fête. Son péché est effacé, mis de côté, oublié. Quelle grâce! On agit tous mal, un jour ou l'autre, on fait tous des choses qui sont mauvaises. Et souvent notre péché, pas toujours bien sûr, mais souvent notre péché touche les autres, affecte les autres. Parfois on fait même directement du mal à quelqu'un. On blesse parfois quelqu'un. Après on le regrette, mais voilà, ben, c'est fait, c'est trop tard. Alors on ne peut pas revenir sur le passé. Alors vous savez ce qu'on fait, la plupart du temps, en tout cas les hommes, beaucoup d'hommes le font, même nous chrétiens parfois, peut-être 95% des hommes, je ne sais pas, le font, ils oublient tout simplement. C'est-à-dire ils s'en souviennent au départ, peut-être ça les torture une heure, un jour, une semaine, si c'est grave un mois, et puis après on oublie. Puis hop, voilà, les événements font que ça s'enchaîne et on oublie. Mais ça, ça ne règle pas le problème. L'avocat général, lui, il a bien vu. Et lui, il est là, il ne va pas se gêner pour nous accuser encore et dire « mais regarde, regarde ». Mais si on a un avocat, Christ, il a le pouvoir d'ôter, d'enlever le péché, ôter la culpabilité. Et même, il peut nous justifier, c'est-à-dire mettre de la justice, sa justice, à notre crédit. On était coupable, mais en plus, il ôte notre culpabilité et nous accorde sa justice. On était un coupable sale, on devient un juste purifié. J'aimerais qu'on prenne 1 Jean 2 et versets 1 et 2. 1 Jean 2. Et versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Christ est l'avocat de ceux qui le désirent. Et il est le meilleur d'avocats. Il est le meilleur des avocats parce qu'il a payé le prix de la condamnation. Imaginez que vous soyez arrêté pour un crime et à ce moment-là, votre avocat de la défense n'est autre que quelqu'un qui a purgé une peine, peut-être on va dire il y a longtemps, purgé une peine pour laquelle il était innocent. Finalement, eh bien, on l'a disculpé. Il avait purgé la peine, mais il était complètement innocent. Et il vous défend, et le verdict tombe, vous avez 15 ans de prison. Et à ce moment-là, l'avocat de la défense dit, mais attendez, monsieur le juge, moi j'ai purgé 15 ans dans le passé, je n'avais rien fait, j'étais innocent, je demande que eh bien, ces 15 ans comptent pour le coupable qui est ici. C'est complètement improbable. Mais finalement, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, innocent, a vécu la mort afin que nous, eh bien, on puisse ne pas vivre la mort éternelle, être séparés de lui, de Dieu pour l'éternité. Il est dit, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour nos péchés. Ça veut dire qu'il a souffert la mort, il a souffert le jugement pour nos péchés, à notre place pour expier nos péchés. Et ce n'était pas pour ses péchés parce que lui, il n'avait jamais péché, mais il a été condamné pour des pécheurs. Et maintenant, il veut plaider notre cause. Il veut nous défendre comme un bon avocat devant Dieu son Père. Et c'est le seul qui est en mesure de dire « J'étais innocent, j'ai payé pour lui. J'ai tout payé pour lui. » C'est merveilleux ça. Merveilleux de se dire que Jésus-Christ est le meilleur avocat de la défense. Il a payé pour tous nos péchés, tout, tout. Chaque chose que nous avons faite, chaque pensée, chaque égarement, chaque rébellion, chaque méchanceté, il a payé pour tout. Alors il est en mesure de dire à quelqu'un, je t'enlève ton iniquité. Je prends tout ton péché, je l'ai payé pour toi. Et si on se sent accablé à cause du poids d'une désobéissance, d'un péché, si notre conscience elle ne cesse pas de nous accuser, si on voit qu'il n'y a pas d'issue, alors il faut venir à Jésus. De la croix, la grâce coule. De la croix, la grâce coule. La grâce qui peut purifier, qui peut pardonner. Le pardon nous est d'ores et déjà acquis, il a payé. Si vous êtes sûr d'être sauvé et que vous portez encore un poids, une culpabilité quelconque, alors eh bien, il faut vraiment vous décharger et dire « Seigneur, eh bien, j'accepte cette grâce, j'accepte ton pardon, je sais que tu es mon avocat, je sais que tu me défends. Satan ne peut plus vous salir. » À partir du moment où vous venez vous réfugier sous la croix, Satan ne peut plus vous salir. Par contre, si vous ne venez pas vous réfugier sous la croix en disant « Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi », alors là, Satan peut vous accuser encore. Il y en a un qui a commis un inceste, vous savez, dans 1 Corinthiens. Et Paul a dit « Vous et mon esprit, étant assemblés, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Ça veut dire, eh bien, il ne veut pas marcher, en fait. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas abandonner son péché. Il ne veut pas être plus saint. Alors, eh bien, il va être chargé. Et puis, si Satan ne peut pas l'envoyer en enfer, parce que c'était un enfant de Dieu, son esprit sera sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais il ne va pas continuer à vivre dans cette vie de méchanceté et de péché. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que tout ce que nous savons, que nous faisons, qui déplaît au Seigneur et que nous ne lui confessons pas en disant « Seigneur, délivre-moi », Satan peut nous charger là. Il peut nous charger. Et on peut vivre après des conséquences aussi. Il y a des conséquences qui retombent parce que, eh bien, on n'a pas voulu, Seigneur, libère-moi, purifie-moi, change ma vie, fais-moi devenir l'homme que tu veux que je sois, que je te glorifie par ma vie. Mais si Christ est là, s'il se tient à côté de nous, alors il dit, mais que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Christ n'a qu'à présenter ses mains, ses pieds percés, et on est protégé. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors, eh bien, si on se repent et on dit, Seigneur, agis, eh bien, il faut lui faire confiance aussi. Et j'en profite aussi pour rappeler que c'est vraiment important de confesser tous ses péchés. Parce que nous aussi, en tant que chrétiens, parfois on oublie. On passe un peu dessus. On peut aussi oublier de l'amertume, par exemple. Il y a une amertume, ce n'est pas bien réglé. Puis on le garde là. Un jour, ça peut nous revenir en plein visage. Satan, il veut toujours nous piéger et nous faire tomber. Mais si on confesse, on dit « Seigneur, libère-moi », alors eh bien le Seigneur est grand, il le fait. Maintenant, si ce matin, vous n'avez pas de certitude, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, pas sûr d'avoir la vie éternelle, si vous espérez peut-être, j'en sais rien, alors, eh bien, il faut que vous preniez cet avocat. Il y a une démarche qui est consciente, qui est volontaire, en disant « Oui, je veux croire. Oui, je puis croire que Jésus-Christ est mort pour moi. » Jésus-Christ est lui-même la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Du monde entier. Mais il ne va pas prendre la défense du monde entier. Il va prendre la défense que de ceux qui seront venus se réfugier sous la croix et qui auront cru en Jésus-Christ. Donc c'est impératif de vraiment croire en lui. Alors seulement il nous couvre de ses ailes et il nous protège. Alors eh bien la question, au verset 6, la dernière parole dit « L'ange de l'Éternel était là ». Si l'ange de l'Éternel est là avec nous, on n'a rien à craindre. Ça qui est merveilleux. Est-ce que l'ange de l'Éternel est avec vous, à côté de vous? Est-ce qu'il sera avec vous? C'est vraiment la question la plus importante. Si ce n'est pas le cas, eh bien vraiment, je vous invite à le confesser, à vous approcher de lui. Peut-être, venez me voir à la fin. On pourra prier ensemble, si vous le souhaitez, pour que vous puissiez avoir un bon avocat. On va avoir un moment de prière. Vous pouvez adorer, louer le Seigneur, le remercier pour cet avocat.